Nous commençons avec un entretien qui pourrait s'intituler « 6 ans après ». Après quoi ? Après le début de la crise. Et qui va compléter les interrogations que vous avez entendues tout à l'heure de la part de M. de Foucault sur comment sommes-nous encore dans une zone dangereuse et comment sommes-nous entrés dans cette zone dangereuse. Et avant de poser ces questions, on peut en poser d'autres, plus précises encore, comment cet engrenage infernal s'est-il développé et comment cette tragédie, parce qu'il s'agit d'une tragédie, s'est-elle déroulée et en séquences successives, et comme il s'agit d'une tragédie, on peut dire en acte, premier acte, deuxième acte, etc. Il faut bien voir que au 1er janvier 2007, l'année s'ouvrait dans une parfaite sérénité. C'était le début de la 5e année de croissance mondiale à un rythme de 5% l'an, ce qui était un très beau rythme. Et l'Europe, elle, fonctionnait à environ 2,6% l'an. Nous voudrions bien avoir ce taux de croissance aujourd'hui. La France était un peu à la traîne à 2,1. Nous voudrions bien avoir ce taux de croissance aujourd'hui. Et tout était serein. Tout était serein jusqu'au 9 août 2007, où nous étions plus ou moins sur les plages et nous avons appris brusquement que la BCE avait largué, en quelque sorte, 95 milliards d'euros de liquidités à propos du refinancement des banques commerciales. Alors nous entrons dans la glaise. Les banques commerciales ont en effet besoin de se refinancer régulièrement auprès de leur banque centrale. Ce refinancement était limité, mais là, nous assistions à un refinancement qui nous est apparu, tout au moins pour les spécialistes, énorme, 95 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est peu de choses, mais à l'époque, ça a paru énorme. Ce 95 milliards d'euros était accordé aux banques commerciales à un taux qu'on appelle le taux directeur des banques centrales, qui est le prix du service rendu aux banques commerciales pour ce refinancement. Vous savez que ce taux dit directeur parce que l'ensemble des banques commerciales adoptent le même mouvement que le taux de la banque centrale. Si la banque centrale élève son taux, les banques commerciales élèvent le leur à l'usage de leurs clients. Et inversement, si la banque centrale baisse le taux, les banques commerciales baissent aussi le taux. Donc 95 milliards brusquement lancés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au mois de juillet, les banques s'étaient aperçues qu'elles portaient des produits qui étaient jusque-là considérés comme mirifiques, parce qu'ayant un haut rendement, et que ces produits n'étaient plus vendables. Plus personne n'en voulait. Par conséquent, ces produits dits mirifiques étaient devenus toxiques. Et par conséquent aussi, elles ne voulaient plus se prêter les unes les autres. On vous a parlé tout à l'heure de ce mouvement des banques entre elles. Les excédentaires prêtent aux déficitaires et ainsi ils s'organisent un marché interbancaire. Ce marché interbancaire se trouvait brusquement bloqué. Par conséquent, la BCE a eu une réaction excellente, très rapide, en prêtant aux banques déficitaires ce qu'il fallait pour être en état de fonctionner. C'est ce qu'on appelle une crise de liquidité bancaire. Cette crise s'est établie car finalement la Fed, la Banque centrale américaine, a suivi dans le courant du mois d'août Et puis, à la fin du mois d'août, c'est la Banque d'Angleterre qui elle-même a commencé à fournir des liquidités aux banques en difficulté. Cette situation s'est installée et finalement, il y a eu quelques petits drames locaux aux États-Unis. Mais finalement, la grande masse de la population, des populations, ne s'intéressait pas beaucoup à ce problème, puisque finalement, les banques fonctionnaient normalement. Ça a duré ainsi environ un an, et on est passé, un an après, à l'acte 2, qui a été non plus une crise de liquidité bancaire, mais une crise de solvabilité bancaire. C'est-à-dire que les banques étant plus solvables, eh bien, elles risquaient de tomber en faillite. Laquelle a ouvert le bal, si j'ose dire? Eh bien, c'est Lehman Brothers. Le 15 septembre 2008, la banque Lehman Brothers fait faillite. Et cette faillite, sur le moment considérée comme une petite histoire, après tout, c'est une banque parmi d'autres, bien qu'une banque d'investissement américaine importante, oui, mais si importante qu'elle avait des filiales à Londres, elle avait des filiales dans d'autres endroits, et ces filiales se sont trouvées également en faillite, et un certain nombre de fonds, dont des fonds spéculatifs, ayant fonds chez Lehman Brothers, se sont trouvés eux-mêmes en difficulté et, pour faire face à leurs engagements, ont vendu leurs actifs, notamment boursiers, et les bourses se sont effondrées dans le monde. Crise systémique, crise boursière, crise des fonds, crise d'autres banques liées à Lehman Brothers en raison des interconnexions très étroites qui se sont établies dans le système financier, crise de l'ensemble du système financier et très peu de temps après, crise devenant réelle, c'est-à-dire crise de l'économie, de la production, de la consommation et de l'emploi, parce qu'à partir du moment où il y a crise financière, l'alimentation du secteur réel se fait moins bien et donc on bascule dans la crise. Dernier trimestre 2008, premier trimestre 2009, l'ensemble du monde va être affecté par cette crise. Alors, pour y faire face, et je dois dire avec une rapidité remarquable, les banques centrales, on reviendra peut-être sur ce sujet, les banques centrales, les gouvernements s'impliquent et on va monter trois leviers pour faire face à cette crise. D'abord, s'occuper de la résilience du système financier, c'est-à-dire essayer de le mieux réguler, parce que visiblement, s'il y a des produits toxiques, c'est qu'il n'y a pas une bonne régulation. Donc, premier temps, résilience du système financier. Deuxième temps, le levier de la politique monétaire. Les banques centrales vont affaisser leurs taux directeurs. Et puis, également, politique budgétaire de relance de l'activité économique. Et je dois dire, alors je signale quand même que le Fonds monétaire international, l'OCDE, les Américains insultaient un peu l'Europe qui ne faisait pas assez de relance budgétaire. Allez, mes amis, il faut faire de la relance budgétaire. Acte 3. 2010, tentative de sortie de la crise, exit strategy. Exit strategy, c'est un concept du Pentagone américain pour essayer de résoudre le problème de sortir des guerres non gagnées dont les États-Unis ont l'habitude. Donc, essayer de sortir de cela. Mais c'est un grand défi de sortir de cela. Il faut normaliser et il faut par conséquent abaisser les leviers qu'on a levés. Et abaisser les leviers, c'est-à-dire les taux, par exemple, directeurs qu'on a complètement abaissés, il faudrait commencer à les relever. Bon, ce n'est qu'un exemple. Ah oui, mais cette sortie, à l'acte 4 de la tragédie, elle bute contre un phénomène. le mur de la dette publique. Tout d'un coup, on s'aperçoit que les pays sont considérablement endettés. Et à ce moment-là, les mêmes organismes qui avaient insisté pour qu'on s'endette disent « mais c'est pas possible, il faut passer à la phase de désendettement ». Pourquoi ? Parce que les prêteurs, qui sont les prêteurs ? Les prêteurs, ce sont essentiellement l'Asie, les pays du Moyen-Orient pétroliers, via des institutions financières, bien sûr. Ces prêteurs s'alarment devant cet endettement. Alors, ce qui aurait dû être un incident devient dramatique. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Les prêteurs vont exiger des taux d'intérêt de plus en plus élevés pour prêter à des gens qui sont aussi endettés. Et on entre dans la crise de la dette. Sinon, c'est se donne stop, on arrête. Alors nous sommes maintenant à l'acte 5, parce que par l'intermédiaire de la Grèce est arrivée la récession européenne 2012-2013. Nous en sommes là. Nous sommes probablement en train de tenter une nouvelle sortie. Nous avons raté une sortie. Nous sommes en train de faire une nouvelle sortie qu'il faut espérer réussie cette fois. Donc voilà, si vous voulez, le tableau rapide des événements tels qu'ils se sont déroulés au cours de cette dramatique tragédie. Alors, maintenant, essayons de voir un peu comment ça se situe dans le phénomène de la mondialisation. Le phénomène de la mondialisation, c'était essentiellement un phénomène technologique sur lequel on ne peut pas discuter, parce que les technologies de l'information, les technologies de la communication ont affecté effectivement le marché financier. À partir du moment où l'argent circule instantanément dans vos machines, il est bien évident que le monde change et qu'on ne peut plus avoir les mêmes régulations, etc. Il est évident que les marchés financiers ont été affectés par ces technologies nouvelles. Ça a commencé dans les années 80 et finalement ça a explosé, les conséquences ont explosé à la fin de la décennie 90, et dans le même temps il est intervenu quelque chose auquel on ne pensait pas du tout, c'est la mondialisation du marché du travail avec la fin des régimes communistes et notamment avec la fin du maoïsme et le développement à partir des efforts de Deng Xiaoping à partir de 1992, le fait que la Chine est intervenue dans le marché du travail en offrant des travailleurs à bon marché, hélas, et ce qui a affecté les marchés du travail occidentaux. On a vu les délocalisations, on a vu la pression sur tous les systèmes de travail occidentaux. Et donc, ceci était absolument inimaginable très peu de temps après. Dans le même temps, il faut bien voir qu'il y a deux types d'hétérogénéité qui se sont manifestées dans le monde à ce moment-là. D'abord, l'hétérogénéité des propensions à l'épargne. Dans le revenu, vous avez deux parties. Vous avez l'affectation du revenu est destinée à la consommation et à l'épargne. Donc, lorsque vous épargnez beaucoup, vous consommez peu, et inversement. Bon. On a eu une hétérogénéité fabuleuse, parce qu'en Asie, l'extrême de cette constatation, la Chine épargne beaucoup. Les Chinois épargnent encore aujourd'hui plus de 50% du revenu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de système, ou peu de système de sécurité sociale, peu de retraite, etc. Ils épargnent beaucoup. Bon. Et à l'autre extrémité, vous avez les États-Unis qui épargnaient de moins en moins, et dans les phénomènes d'innovation financière, la carte de crédit est arrivée, donc tout Américain avait 7 ou 8 cartes de crédit, etc. Et nous sommes arrivés à une épargne qui a même été négative de la part des ménages américains. Donc nous avons aux deux bouts du système des épargnants extrêmes et des consommateurs extrêmes. Hétérogénéité. Hétérogénéité aussi des systèmes financiers, parce que dans la zone où il y avait cette épargne considérable, il n'y avait pas les marchés financiers suffisants pour utiliser cette épargne, pour l'affecter, la transformer en des progrès économiques. Il y a des marchés financiers en Asie, mais ils se développent, mais ils n'ont pas de capacité d'absorber cette immense épargne. Bon. Et dans le même temps, vous avez en Occident, et particulièrement aux États-Unis, un système financier que les spécialistes appellent profond, c'est-à-dire immense, c'est-à-dire liquide, et qui a absorbé, évidemment, cette épargne. Donc les flux de capitaux se sont déplacés vers notamment l'Occident et plus particulièrement les États-Unis. Autre hétérogénéité. Hétérogénéité aussi parce que vous aviez des déséquilibres des balances des paiements courants. Les pays asiatiques, moyen-orientaux, étaient des pays dont les exportations l'emportaient de beaucoup sur les importations, donc étaient excédentaires. Alors que, aux États-Unis notamment, il y avait un considérable déficit. Donc vous avez des déséquilibres des balances des paiements courants, et bien sûr, on était dans un monde un peu absurde, où des pays pauvres, comme la Chine, car quels que soient les progrès que font la Chine est encore un pays relativement pauvre. Bon. Et les États-Unis, un pays le plus riche. Et finalement, ce pays pauvre était excédentaire, les États-Unis déficitaires, et bénéficiaient pour financer ce déficit de l'épargne asiatique. Un monde, ça fait des années que cela dure. Et il est certain qu'il y a là une sorte d'équilibre non vertueux entre ces deux systèmes, qui en fait est un déséquilibre profond et qui est une cause profonde de la crise. Ça fait 15 ans qu'on se disait c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, ça n'allait pas fondamentalement, mais on ne le voyait pas, on ne le ressentait pas. Et finalement, on aboutissait à cette situation de ces 5 années de croissance dont je parlais tout à l'heure. Je disais que 2007 s'était ouvert sur une situation magnifique parce que on vivait dans une situation de forte croissance, pas d'inflation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette pression salariale qui venait de la Chine et qui maintenait, quelles que soient même les fantaisies du prix du pétrole, qui empêchait l'inflation. Croissance, normalement, il aurait dû y avoir quand même une certaine inflation. Non, pas d'inflation. Faible taux d'intérêt. Monsieur Greenspan se demandait pourquoi il y avait de si faibles taux d'intérêt. Bon, parce que d'abord, il inondait de liquidités l'économie américaine, et faible situation idéale, extraordinaire. Et l'un des économistes les plus lucides, Iman Minsky, disait « C'est le paradoxe de la tranquillité. le paradoxe de la tranquillité. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous croyez qu'il n'y a plus de risque et vous croyez que vous pouvez vous endetter à l'infini. Donc, vous avez eu, notamment aux États-Unis, car le problème est venu des États-Unis et des ménages américains, le surendettement des ménages américains qui a débouché sur la crise financière des États-Unis qui s'est communiquée au reste du monde. Mais vous voyez bien ce paradoxe de la tranquillité. Il n'y avait rien de plus comme situation économique, apparemment de plus merveilleuse et en même temps de plus dangereuse. Parce qu'au fur et à mesure de l'établissement de cette situation, on s'avançait dans l'endettement sans voir la falaise. Et la falaise s'est ouverte. C'est une crise, comme toutes les grandes crises, c'est une crise de l'endettement. Alors, il s'est superposé là-dessus la crise européenne, mais ça, on n'en parle pas parce que c'est un autre sujet. L'incomplétude des institutions de Maastricht, le décalage des productivités. Il est certain que la zone euro, mal armée, n'a pas résisté ou a mal résisté au choc extérieur venu des États-Unis. Alors comment n'ont-ils rien vu venir ? C'est une question qu'on peut se poser parce que Minsky l'avait vu venir d'abord le monde de la finance pour trois raisons. La première raison, c'est la facilité. La deuxième raison, c'est la sécurité. Et la troisième raison, c'est la recherche du profit le plus élevé. Alors, commençons par la facilité. La facilité, elle est liée à la globalisation financière, c'est-à-dire à la mondialisation financière dont on vient de parler et qui était inévitable pour des raisons technologiques. Alors, dérégulation. Il est bien certain que les anciennes règles, tel le Glass-Steagall Act, dont on pourra reparler, n'était plus adapté aux besoins pressants liés à cette croissance. Et on a dérégulé, et puis il y a eu un changement également dans les idées économique, on est passé à une certaine forme de libéralisme, on a quitté le monde keynésien qui avait beaucoup déçu pendant les crises pétrolières, puisque les outils politiques de Keynes face à la crise pétrolière ne résolvaient pas les choses, puisqu'on avait à la fois inflation et stagnation, c'est ce qu'on appelait la stagflation. Bon. Donc on est passé à autre chose et on a dit maintenant la politique budgétaire discrétionnaire n'est plus utilisable, on garde les stabilisateurs automatiques naturellement, mais la seule arme de politique économique, c'est la politique monétaire. Et la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. C'était la nouvelle façon d'imaginer la politique économique. Alors, en matière de technologie, bien sûr, toujours cette technologie nouvelle de facilité de la communication, la facilité offerte par Internet, etc., et a facilité les innovations financières. Donc on est passé aux innovations financières. Et on est passé à ce qu'on peut appeler la désintermédiation bancaire. Une banque, en principe, c'est un intermédiaire financier entre des prêteurs et des emprunteurs. L'avantage de la banque, c'est qu'elle connaît les qualités de l'emprunteur. Est-ce que l'emprunteur est de suffisamment bonne qualité pour pouvoir rembourser ? Bien sûr. Donc là, on a eu une certaines désintermédiations bancaires, je ne dis pas qu'elle est totale, loin de là, et sûrement pas en Europe. Mais aux États-Unis, elle a été poussée relativement loin grâce au phénomène nouveau qu'on appelle celui de la titrisation. Alors, je fais un peu de technique, là. La titrisation, ça consiste à rendre négociable sur un marché financier les créances qui sont inscrites à l'actif d'une banque. Concrètement, une banque, par exemple, elle prête à un jeune ménage pour acheter un appartement. C'est une créance qui est à long terme. Elle sera remboursée totalement dans 25 ans, 30 ans. Et donc, c'est une créance qui est illiquide. Illiquide. Ça veut dire qu'elle n'est pas revendable. Bon. Toute l'affaire de la titrisation consiste à rendre cette créance illiquide, liquide. Et donc, ça aboutit à une transformation d'échéance. Ce qui était à 25-30 ans, si ça devient liquide, c'est une transformation d'échéance merveilleuse. Alors, on va créer des portefeuilles d'obligations à court terme, qu'on appelle asset-backed securities, qui sont adossées à des créances. Alors, vous avez la créance de l'immobilier, c'est l'exemple que je viens de donner, mais vous avez des créances commerciales, des créances sur les cartes de crédit, des créances sur les prêts automobiles, enfin, tout peut être finalement, toutes les créances peuvent être titrisées. Alors, que fait la banque ? La banque va céder son portefeuille de créances à un véhicule, excusez-moi, ce sont des termes un peu techniques, mais un véhicule qu'on va appeler SPV, c'est un conduit, et ce conduit va, lui, être chargé d'émettre ses titres. On sort de la créance bancaire va être transformée en titres qui sont souscrits par des investisseurs. Et là, le miracle s'est fait, on a titrisé, on a transformé des créances à long terme en titres à court terme qui sont achetés par des investisseurs. Alors les investisseurs qui est-ce ? Ça peut être d'autres banques, ça peut être des fonds spéculatifs, ça peut être des fonds de pension, ça peut être des fonds de placement, et qui vont eux-mêmes, pour les banques, revendre à leurs clients ces titres. Et ce sont des titres qui sont à haut rendement, meilleur rendement que le placement purement monétaire. Ceci est intéressant pour la banque, en principe, parce qu'elle se débarrasse du risque. Si nous parlons d'une créance immobilière, le risque, c'est le non-remboursement par l'emprunteur. Mais là, ce n'est plus la banque, en principe, qui porte le risque. Ça va être les investisseurs qui vont avoir subir le risque. Donc on a une répartition des risques entre beaucoup de gens au lieu d'avoir le risque bancaire. C'est faux. Parce que la banque conserve une ligne de crédit pour assurer la liquidité de son déconduit des véhicules. Et bien sûr, plus tard, lorsque les choses vont tourner mal, eh bien ces lignes de crédit vont fonctionner et les banques vont recevoir à nouveau le risque. Mais initialement, on a cru que les banques se débarrassaient du risque. En fait, ce n'est pas pour cela qu'elles ont tellement titrisé. C'est parce que ces titres étaient placés dorénavant hors bilan. Et sortis du bilan, pour la banque, ceci représentait une économie de fonds propres lors du calcul du ratio de solvabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un ratio de solvabilité ? C'est le rapport entre le capital de la banque et ses engagements. Il y a des ratios qui sont imposés par les règles de Bâle. Et là, puisque tout ça sortait du bilan, eh bien, le ratio de solvabilité était obtenu de façon plus économe en capital. Je sais que c'est un peu complexe. Mais c'est essentiellement, finalement, la raison de l'engouement pour la titrisation. Alors, cette titrisation, c'est une opération technique qui n'est pas à condamner. On est en train d'essayer de la ressusciter, d'ailleurs, mais dans d'autres conditions. Quel était l'avantage de tout ce système dérégulé, titrisé, etc. ? La mobilité des capitaux. L'augmentation des crédits, puisque finalement, on voyait bien que les conduits, en répartissant les titres, il y avait des investisseurs qui venaient apporter leur argent. Donc, on avait une augmentation globale du fonctionnement du système et du crédit. Et naturellement, la croissance suivait, puisque la croissance a besoin de crédit pour avancer. Donc, finalement, le système semblait marcher bien. Deuxième élément, facilité. Vous voyez, c'était facile. C'était aussi, semblait-il, sûr, sécurité. Parce que le risque, finalement, semblait dilué, lié à la confiance dans ce qu'on appelle les produits structurés. Alors, les produits structurés, ça associait non seulement la titrisation, dont je viens de parler, mais aussi ce qu'on appelle les dérivés de crédit, les CDS, les crédits default swap. Alors, qu'est-ce que c'est que les crédits default swap ? C'est une assurance. La banque s'assurait auprès de tiers contre le risque de non-remboursement. Et dans la suite, les conduits et l'ensemble étaient supposés, assurés par ces CDS. Alors, la valeur de ces CDS, d'ailleurs, c'est devenu un marché, et la valeur de ces CDS montait au fur et à mesure que le risque montait, bien sûr. Alors, on a fait après des portefeuilles synthétiques qui mélangeaient titrisation et CDS. Ça s'est appelé des CDO. Je vous ai noté le nom en anglais, incluant donc des actifs. Alors, on faisait des portefeuilles de CDO non homogènes, avec à la fois des crédits immobiliers, des crédits commerciaux, des crédits sur carte de crédit. Enfin, on faisait un mélange de tout ça et on ajoutait un peu de CDS et on faisait classer ces portefeuilles par les agences de notation. Et comme les agences de notation avaient participé à la création de ces portefeuilles, on obtenait triple A. Et les investisseurs allaient acheter du triple A. Et puis un peu plus, pour allonger la sauce, de rehausseurs de crédit. Alors, les monolines, bon, c'est encore des assureurs, un peu plus d'assurance. Le risque n'existe plus. J'ai mis un certain nombre de points d'exclamation. J'ai entendu à une réunion de financiers en avril 2007, vous vous souvenez, ça démarre en 9 août 2007, en avril 2007, cette réflexion qui se transmettait de l'un à l'autre. Le risque n'existe plus. On est complètement blindé contre les risques. Et je dois dire que je suis revenu en pensant que le pire risque pour un financier, c'était de penser que le risque n'existait plus. Alors le système s'est emballé. Oui, c'est l'histoire du cheval sur une plage. Le système s'est emballé, accéléré en 2004. Et il s'est construit, ce système bancaire parallèle, qu'on appelle le shadow system, shadow banking system, cette banque parallèle, de marché non organisé. Or, marché non organisé, c'est un oxymore. Les marchés sont organisés. Et le concept de marché non organisé, c'est un oxymore. Alors, on appelle ça des marchés de gré à gré, ou bien des marchés OTC, over the counter. Et on a eu donc cette montée fabuleuse. On est au troisième élément qui est la recherche de profits toujours plus élevés. Facilité, sécurité, profit élevé. J'ai commis un petit article en novembre 2007 incendiaire qui s'appelait « Tous coupables », y compris les ménages qui allaient acheter des produits bizarres qu'on leur vendait en leur disant « mais ça rapporte plus ». Si ça rapportait plus, c'est signe qu'il y avait quelque chose quand même de plus risqué. Bon. Alors, du coup, on arrive aux bulles, parce que tout ce système dégage sur des bulles, et les bulles, c'est des cracks. Alors, la finance globale dans la tempête. Le mois de septembre 2008, que se passe-t-il? Ça commence par la mise sous tutelle de Fannie Mae et de Freddie Mac. Ce ne sont pas des comédies américaines, ce sont deux établissements parapublics de refinancement hypothécaire. On va en parler tout à l'heure. Elles sont sur le point de faire faillite. Ce sont des établissements parapublics, donc l'État fédéral va les mettre sous tutelle, pratiquement, ça s'appelle les nationaliser. Et le coût prévisible pour le contribuable américain est 200 milliards de dollars. La faillite de Lehman Brothers intervient le 15 septembre 2008. Et alors on s'interroge, on se dit, mais pourquoi est-ce que les pouvoirs publics et la Fed ont laissé faire cette faillite de Lehman Brothers? En fait, ils avaient déjà sur le dos, si j'ose dire, Fannie Mae et Freddie Mac. Ils avaient sauvé une banque américaine plus petite qui s'appelait Bear Stearns 6 mois avant. Et vis-à-vis du Congrès américain, on commençait à penser que c'était insupportable. Et puis après tout, Lehman Brothers, c'était une banque privée et une banque qui était une banque d'investissement. Il n'y avait pas de dépôt. Donc, par conséquent, les seules victimes étaient des créanciers ou des actionnaires. Il n'y avait pas de déposants à pouvoir être victimes. Donc, les pouvoirs publics et la Fed ont pensé qu'après tout, puisque les banques avaient fait beaucoup d'erreurs, que ce serait une bonne affaire que de faire une... faire un responsable, et ce responsable, c'était Lehman Brothers. Alors, derrière, il y a eu certainement des problèmes personnels compliqués, mais enfin, il y a quand même des raisons objectives pour laisser penser que, finalement, Lehman Brothers a été abandonné le 15 septembre 2008, sans se douter un instant que ça allait déclencher une crise systémique. Et ça a déclenché une crise systémique. Alors, derrière Lehman Brothers, il y a eu la crise de l'assureur américain AIG, je le dis en français, AIG. Et ça, c'était épouvantable. Si on laissait AIG sauter, alors là, après Lehman Brothers, c'était à coup sûr la crise systémique. Et la Fed a prêté à AIG 85 milliards de dollars. On est là maintenant dans les gros chiffres. Hein. Nos 95 milliards d'euros du début, c'est plus rien. Et voilà. Et on a eu quand même la crise systémique. Alors, il faut dire tout de suite que les pouvoirs publics ont été, et les banques centrales ont été très efficaces. Les banques centrales ont effondré leur taux directeur, bien sûr, Et les pouvoirs publics, et il faut dire que la France a été à la pointe de ce mouvement, puisque Lehman Brothers est le 15 septembre 2008, et dans les tout premiers jours d'octobre, c'est-à-dire 15 jours après, à l'Élysée, on commençait à réunir les pays européens et à demander qu'il y ait une réunion du G20 à Washington au mois de novembre. La France a été tout à fait à la pointe de cela. Et tous les gouvernements ont affirmé qu'ils se portaient garants du fait qu'aucun établissement systémique ne sauterait sans intervention des pouvoirs publics. Mais enfin, comment en est-on arrivé là ? Par la formation d'une petite bulle dans l'immobilier qui est devenue une énorme bulle. Il faut penser que le marché immobilier était en croissance aux États-Unis depuis 1990. Mais en 2006, cette inflation des prix s'était beaucoup ralentie. De sorte que en 2007, on voyait bien qu'il y avait un certain ralentissement de l'économie américaine, même au début de 2007. Mais on pensait que la croissance des émergents comblerait le ralentissement, le petit ralentissement immobilier américain. C'est comme ça que s'est présentée l'année 2007. Alors, comment ça se passe sur le marché immobilier américain ? Il y a différents taux qui sont selon la qualité des prêts. Il y a les prêts prime, prime lending, c'est les prêts qui sont faits à des gens qui ont toutes, assurent les meilleures conditions de remboursement. Il y a les prêts intermédiaires, on va les appeler mezzanine, et puis il y a les subprime, où il y a des doutes sur la qualité du remboursement parce que les gens ont des revenus faibles ou des taux d'endettement ou bien, bon, subprime. Alors, pour ces subprimes, il y a de tout. Il y a les subprimes qui sont faits avec des taux variables pour les deux premières années, puis des taux faibles pour les deux premières années, ça lèche les gens, hein, les deux premières années on fait des taux faibles, et puis après on passe au taux variable. Bon, taux variable, ça c'est l'inconnu, mais les gens ne s'en rendent pas bien compte. Et à la limite, la caricature de tout ça, c'est ce qu'on appelle les prêts ninja, no income, no job. Nos assets. Quelles sont les responsabilités dans cette affaire qui est quand même dramatique, parce que ceci a impliqué beaucoup d'Américains pauvres qui ont été alléchés par ces conditions extraordinaires. D'abord, les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui ont mené une politique du logement bienveillante, et ça c'est le problème de certaines choses qu'on imagine sociales et bienveillantes et qui ont été finalement détournées de tout cela. On a créé ce qu'on appelle des GSE, c'est-à-dire des Government Sponsored Enterprises, qui sont des établissements semi-publics, parapublics à capital fédéral. Alors, Fannie Mae, je vous ai mis le nom exact en 38. Freddie Mac, je vous ai mis le nom exact en 70. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des besoins considérables de logements aux États-Unis dans les années qui ont suivi la guerre. Et il fallait accroître les crédits hypothécaires. Et c'est à ce moment-là que s'est développée la fameuse titrisation dont nous avons parlé. C'est le résultat de cette politique qui a été menée. On a inventé la titrisation pour répondre à ces besoins. Mais c'était limité au GSE. Et on a accru les crédits hypothécaires par la titrisation et en même temps l'administration américaine et le Congrès étaient ravis parce que ça permettait de faire appel, vous voyez bien le phénomène de la titrisation, à des investisseurs supplémentaires qui venaient alimenter ces crédits hypothécaires, et ça évitait au Congrès américain de sortir de l'argent, enfin d'accroître le budget pour mettre du capital dans les GSE. Donc tout le monde était content. Et puis, il y a une autre politique qui s'est superposée à cette politique bienveillante, toujours aussi bienveillante, qui est, on va l'appeler en français CRA, Community Reinvestment Act, en 77, qui encourageait non seulement les GSE, mais les banques à prêter à des ménages ayant des revenus faibles. Et on a même mis des quotas pour les GSE, pour les obliger à prêter à des ménages ayant des revenus inférieurs aux revenus médians de la région. Je n'ai plus exactement les quotas en tête, mais ça s'est descendu très bas. Alors, à cela s'est ajouté des intermédiaires privés, parce que une fois que le système a été mis en route, des banques ont eu le droit de faire cette titrisation, puis des établissements financiers, et finalement, on a eu une vague de candidats financiers à faire ce type d'opération. C'est ce qu'elle appelle la chaîne des intermédiaires privés. Et tout ça reposait sur une hypothèse qui nous paraît particulièrement stupide. C'est la hausse permanente des prix de l'immobilier américain. Bien sûr, ça durait depuis un moment. Mais enfin, il y a des cycles. Il y a des cycles dans des tas de domaines. Et il y a des cycles dans l'immobilier. Et donc, on est parti du fait que c'était évidemment prêté à des gens qui n'avaient peu de revenus, peut-être pas, d'abord on ne voulait pas le savoir, mais ce n'était pas grave parce que si on avait un pépin, s'il ne remboursait pas, eh bien l'actif était là, le logement était là, et le logement, eh ben on le reprendrait. Et comme les prix de l'immobilier devaient monter, on ne perdrait pas d'argent puisqu'on revendrait ce logement plus cher. Panne à partir de 96. Le système s'écroule. Et on voit bien que la titrisation ne va pas sauver les banques. Elles n'ont pas évacué le risque puisqu'il y avait ces fameuses lignes de crédit. Et elles vont payer deux fois. Elles vont payer pour les titrisations qu'elles ont faites, à cause de la ligne de crédit qui va jouer. Et elles vont payer aussi parce que elles se sont portées, certaines, investisseurs de ces nouveaux titres. Elles ont fait partie des gogos, si j'ose dire. Je caricature volontairement pour bien faire comprendre, de tous les investisseurs qui se sont portés acheteurs de ces titres. Elles étaient à la fois titriseurs, si j'ose dire, et acheteurs de titres. Alors, naturellement, ce qui justifie un système aussi bizarre, c'est quand même, à chaque pas, il y avait des commissions à ramasser, hein. Et ce qui est aussi dans le système tout à fait condamnable, c'est l'asymétrie d'information. Akerlof, qui est un économiste bien connu, qui est le mari de Janet Yellen, que je pense être la future présidente de la Fed. Enfin, on en parle tout au moins. Hein. Quand Ben Bernanke s'en va au 15 janvier, il est question que Janet Yellen... Bon, Janet Yellen a un époux qui s'appelle Karloff, et qui est le spécialiste de l'asymétrie d'information, et qui quand il y a asymétrie d'information, il y a des conséquences graves sur, évidemment, les mal informés. Et les mal informés, c'était les acheteurs de logements, hein, qui se lançaient dans cette opération mirifique d'avoir à faible taux, soi-disant, l'acquisition d'un logement. Et faible taux, non. Parce que dans le même temps, il y a eu hausse des taux directeurs par la Fed. La Fed de 2004 à juin 2006 a élevé son taux directeur de 1 à 5,25%. Donc, les taux variables au bout de 2 ans, je vous ai dit 2 ans de taux bon marché, puis après on passait aux taux variables. Et les taux variables, c'est 5,25 plus je ne sais quoi. Voilà. Alors, la responsabilité des banques centrales. Elles n'ont pas de prévision sur l'inflation des actifs. La stabilité des prix pour la Banque centrale, c'est la stabilité des prix à la consommation. C'est les prix de l'indice des prix à la consommation que l'on suit. Mais pas l'inflation des actifs, assets inflation. Assets inflation a été découverte au Japon entre 1987 et 1990, où il y a eu une folie japonaise à la fois sur la bourse et sur le logement. Et la Banque centrale du Japon n'a rien vu, d'ailleurs. Elle n'a pas bougé son taux directeur parce que l'indice des prix à la consommation ne bougeait pas, alors que les actifs s'envolaient. Donc, en principe, l'inflation des actifs ne rentre pas dans l'objectif d'une banque centrale. L'objectif, c'est la stabilité monétaire, ce n'est pas la stabilité financière. Je me bats contre ça depuis 15 ans. Elles n'avaient pas d'informations non plus, les banques centrales n'avaient pas d'informations sur le système bancaire parallèle. Elles ne pouvaient pas en avoir. Le shadow system que vous avez vu tout à l'heure, elles n'en avaient pas. Et puis, il y a eu cette période de finance facile. Greenspan a baissé le taux directeur de la Fed jusqu'à 1%. Il faut bien voir qu'on vivait dans un espoir de prospérité générale. Je vous dis 2007. On était dans un équilibrage non vertueux entre consommation américaine financée par l'endettement et l'émission de dollars et un modèle de croissance asiatique fondé sur l'épargne et les exportations. Tout ça, ça marchait bien. On a vu que derrière, ça ne pouvait pas bien marcher. Il faut essayer de tirer des leçons de cette crise. Première leçon, c'est la résilience du secteur financier à assurer. Donc pour les banques, il faut évidemment plus de régulation. Alors on fait Bâle 3. Quelque chose de... Une prudence à avoir. Parce que trop de régulation ou des régulations mal pensées se retournent. Et visiblement... Si vous faites trop de régulation, dans un pays, par exemple, ou dans une zone, et qu'il n'y a pas une régulation mondiale, les opérations vont se déplacer. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage réglementaire. On va aller ailleurs. Bon. Alors ailleurs, ce sont souvent les États-Unis, bien sûr. Et puis, ailleurs aussi, ça peut être le shadow system. Si vous réglementez trop le système officiel, ben les opérations vont aller ailleurs. Alors, le Conseil de stabilité financière qui a été créé par le G20 a lancé des procédures de régulation du shadow system. Et effectivement, on entame ces procédures de régulation. Mais c'est un sujet en soi, hein. Et c'est pas facile. Il est probable que ce sera beaucoup plus difficile de réguler le shadow system que de réguler les banques. Donc, on est dans un processus d'innovation financière qui est extrêmement difficile et techniquement difficile à obtenir. Mais c'est un sujet en soi. Alors, si on fait de la régulation, c'est très bien. Mais la régulation ne suffit pas. Il faut l'application de la régulation. Et l'application de la régulation, c'est par la supervision. Alors, la supervision, depuis un peu plus d'un an, en Europe, on a fait un progrès extraordinaire, qui est de mettre en place une autorité bancaire européenne, appliquant les mêmes règles, et les 150 plus grandes banques seront supervisées par un comité qui est un comité de la BCE. Et les premiers stress tests de ces banques vont être faits dans les 6 mois, parce qu'on a eu des tas de stress tests qui ne valaient rien, et là, on va faire les choses sérieusement. Mais ça pose beaucoup de problèmes d'application. On pense que l'autorité bancaire européenne sera en état de marche pour une partie de sa fonction, d'ailleurs, pour la première partie, qui est la partie supervision, dans environ 1 an, si tout va bien. C'est pas un système simple, on pourra en rediscuter, c'est pas simple. Alors, pour les marchés, il y a la réforme des OTC, du shadow system dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement esquissée, je dirais plutôt esquissée, que véritablement en route. Alors, maintenant, le deuxième point, la responsabilité de la politique monétaire. Quels objectifs donner à la politique monétaire? On a des objectifs pour l'instant qui sont des objectifs temporaires pour la sortie de crise. Par exemple, lorsque la Fed dit « je ne relèverai pas les taux directeurs tant que le chômage ne descendra pas aux États-Unis en dessous de 6,5%, c'est un taux, c'est du provisoire, ça. Hein, c'est pour la sortie de crise. Je ne ralentirai pas ma politique non conventionnelle tant que le chômage ne sera pas en dessous de 7%. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont... Je parle pas des objectifs permanent d'une banque centrale à terme quand on sera sorti, parce qu'on sortira quand même un jour de la crise, ce sera toujours l'objectif de stabilité monétaire, parce que bien sûr qu'il n'y a pas d'inflation à l'horizon probablement de plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a une sous-capacité de production actuellement, donc... Mais étant donné quand même l'augmentation, non pas de la masse monétaire, mais de la base monétaire qui a été faite aux États-Unis, qui est en train de se faire au Japon, il y a quand même des risques d'inflation différés, parce que à tout cela ne correspond pas la création de richesses réelles. Mais ce n'est sûrement pas dans l'immédiat. Mais il faut quand même conserver un objectif de stabilité monétaire et j'espère enfin un objectif de stabilité financière. Bien sûr que les banques centrales s'occupent de la stabilité financière aujourd'hui, mais elles s'en occupent après coup. Le problème est qu'elles s'en occupent avant. Donc elles essaient de prévenir la crise financière. Alors, il y a un domaine dans lequel elles pourraient quand même agir, c'est dans le domaine de l'immobilier, parce que c'est assez simple de suivre les crédits à l'immobilier. Elles ont les chiffres du crédit à l'immobilier. Donc il y a des moyens de faire en sorte de ralentir ces crédits à l'immobilier. Pour la bourse, c'est beaucoup plus difficile. Et puis il y a le troisième point, qui est, c'est une crise de l'endettement. Donc il faut bien arriver à réduire cette dette. Mais comment? Il y a un certain nombre de moyens. Il y a une croissance forte et rapide. Il y a des mesures d'austérité. Il y a la répression financière. Il y a l'inflation. Et il y a le défaut de paiement. Alors, dans ces cinq... oui, il y en a cinq. Dans ces cinq mesures, il y en a deux qui peuvent être rapides, la croissance forte et rapide, et le défaut de paiement. La croissance forte et rapide, ça, on veut bien l'espérer, mais ça ne se décrète pas. C'est pas évident. Ça ne se décrète pas du tout. Le défaut de paiement... moi, je veux bien, mais si on veut être qualifié d'escroc international, c'est possible. C'est une posture. C'est quand même pas fréquent. Alors, il faut des circonstances particulières. L'URSS a décrété que c'était fini. Hein, et dans certaines de nos familles, on a utilisé les titres de la dette pour orner des parties de sa maison, parce que ça ne servait plus à rien. Titre de la dette russe, bon. C'est quand même pas une situation qui est banale ni recommandable. Bon. Alors, il reste les mesures d'austérité, la répression financière, l'inflation. L'inflation, c'est commode parce qu'on rembourse en monnaie dépréciée. Mais ça a quand même des inconvénients. La répression financière, bon, ça joue pas mal. Ça veut dire que les placements que vous faites sont négatifs. Quand vous comptez les impôts, quand vous comptez un petit peu d'inflation, finalement, vous ne rentrez pas dans vos fonds. Bon. Répression financière et inflation, c'est comme ça qu'on a liquidé les dettes de guerre, d'ailleurs. Hein. Alors, mesures d'austérité, bah, c'est ce qu'on essaie. Évidemment, on l'a essayé de façon assez maladroite, en le faisant tous les pays en même temps, à une date précise, le rendez-vous 2013, tout ça était maladroit. Mais de toute façon, il y a un moment où il faut bien les uns après les autres, avec des dosages, etc., il faut bien arriver à réduire la dette. Et surtout lorsque certains pays se sont laissés aller depuis longtemps à la dette, c'est évident que la situation est difficile. Alors, ceci nous amène à conclure, parce que je crois que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, à conclure que nous sommes dans une situation un peu difficile. Et il faut penser éviter les excédents de crédit, parce que ces excédents de crédit sont toujours procycliques. Et que finalement, ça fait déverser des masses considérables qui sont autant de dettes à accumuler. et que quand on voit le coût de la réduction de la dette, eh bien, la première leçon, c'est d'essayer d'éviter, c'est de commencer à essayer de la réduire un peu, et puis d'éviter de recommencer à se mettre dans cette situation-là. Mais il est certain que, d'un autre côté, le crédit est nécessaire à la croissance, mais que les économistes sont dans une insuffisance de réflexion totale, parce que nous n'arrivons pas clairement à aboutir à définir ce que serait une finance correspondant à et des crédits correspondant aux besoins de notre siècle. Reste à savoir ce que sont les besoins de notre siècle. Merci.